Média Première, Jean-Pierre Rottier, Alain Gerlache.
Mesdames et messieurs, bonjour. Voici donc Média Première, l'émission qui, un vendredi par mois, se propose d'expliquer les médias et répond à vos questions, questions sur ces médias, avec nos invités. Bonjour Alain Gerlache.
Bonjour.
Aujourd'hui, deux sujets. Après les informations de 11h.
Évidemment.
Ah oui, forcément, ça, forcément. Je reprends. Après les informations de 11h, nous parlerons des web radios, ces radios qui fleurissent tous les jours sur le net, gadgets ou radios du futur, Alain.
Oui, c'est la bonne question par rapport à toute la manière dont est en train d'évoluer la radio.
Le grand mufti de la radio sera avec nous. Le directeur de la radio, Francis Goffin, sera là et répondra à vos questions sur, évidemment, ces web radios, mais aussi sur la radio RTBF en général. Et vous avez un numéro pour poser ces questions. C'est le 02 737 26 06. 02 737 26 06. Et tout de suite, le premier sujet, nous allons poser la question que tous les Français se posent depuis la dernière conférence de presse du président Sarkozy. Le service public sans pub, est-ce souhaitable? Est-ce possible? Et plus précisément, la RTBF sans pub resterait-elle la RTBF à l'heure?
Oui, ce sont des questions qui sont posées en France, évidemment, après l'annonce du président Sarkozy, mais qui ont un impact ici aussi, puisque nous avons aussi un service public, il est aussi financé par une dotation publique et par la publicité, et donc la question, au moins théoriquement en tout cas, peut être posée.
Il est 10h14, Média Première, le financement du service public, stop ou encore. Invité ce matin par téléphone, la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel de la Communauté Française. Bonjour Fadila Alanane.
Bonjour Jean-Pierre Rottier.
Richard Miller est avec nous. Bonjour Richard Miller.
Bonjour.
Président de l'intergroupe parlementaire MR et ancien ministre de l'Audiovisuel. Jean-François Arasquia, bonjour.
Bonjour.
Président du conseil d'administration de la RTBF. Et Jean-Baptiste Godino, bonjour.
Bonjour.
Membre de l'ASBL Respire. Tout à l'heure, nous aurons en ligne Dominique Volton, le sociologue des médias bien connu. Et en cours d'émission, il nous parlera évidemment de la problématique française. Mais tout de suite, question à Madame la Ministre. D'abord, Madame la Ministre, vous êtes par téléphone, vous n'êtes pas fâchée avec la RTBF, hein, vous êtes occupée pour l'instant.
Oui, c'est parce que j'ai un gouvernement et donc voilà, c'était la raison pour laquelle je ne pouvais pas être présente sur le plateau.
Première question, est-ce que vous avez été étonnée par cette proposition du président de la République française? Est-ce que vous avez été étonnée comme votre consoeur française, je crois?
Oui, moi j'ai été très étonnée et finalement je me rends compte qu'ici en Belgique, ce débat a cours aujourd'hui et le MR soutient l'ouverture d'un débat sur la suppression de la publicité à la RTBF. Et donc je me rends compte en fait que dès que Sarkozy éternue, le groupe MR tousse. Et parce que il faut se rendre compte, il faut se rappeler que le MR n'a jamais soutenu cette position lorsque nous avons discuté de la renégociation du contrat de gestion. Il faut savoir que lors des recommandations qui ont été adoptées par le Parlement, le MR était plutôt favorable à la levée du plafond des recettes publicitaires en disant qu'il fallait quand même donc une limite qui était celle fixée en 2005. Qu'en outre, ils étaient favorables aussi à la coupure publicitaire durant les fictions parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, bien la méthode de diffusion peut, et la consommation télévisuelle rend caduque l'argument de dire qu'il faut protéger l'intégrité de l'œuvre. Et donc le débat s'est plus axé lors de la renégociation de ce contrat de gestion autour de la problématique des 5 minutes de publicité autour et alentour des émissions pour enfants.
Oui, Fadila Alanane, on va évidemment aborder des questions pratiques, mais au-delà du simple débat politique, parce qu'il y a un certain nombre de gens, peut-être même présents autour de cette table, qui sont opposés à la pub et qui ne sont pas nécessairement membres du MR. Philosophiquement, est-ce que vous êtes d'accord avec le président Sarkozy quand il dit qu'il y a une certaine hypocrisie à voir le service public financé par la publicité commerciale?
Moi, je ne suis pas convaincue de cela, bien qu'effectivement, en tant que téléspectatrice et auditrice du service public, idéalement, j'aimerais mieux que la RTBF n'ait pas à recourir à la publicité. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Par ailleurs, on est dans une situation aujourd'hui où la RTBF a un cahier de charges d'émissions de service public importantes qu'elle doit rencontrer et qui lui sont imposées par le gouvernement. Le gouvernement, en échange, met une dotation importante. Pour cette année, c'est un montant de 192 millions d'euros qui sont mis à la disposition de l'RTBF pour réaliser ses missions de service public. Ce montant de dotation ne suffit pas à rencontrer l'ensemble des missions de service public, notamment parce que la RTBF doit s'adresser à tous les publics. Et donc, il est clair que le débat qui a lieu aujourd'hui en France ne peut pas être adapté comme tel en Belgique. Il faut savoir que la communauté française n'a d'ailleurs pas les mêmes ressources que la France, donc il est facile de jeter des principes sur la table sans proposer de solutions alternatives. Qu'en outre, la communauté française n'a pas de compétences fiscales, donc ça veut dire comment recourir à des moyens qui permettraient de combler le manque à gagner qui existerait au niveau de la suppression de la pub. Qu'en outre, supprimer des recettes de la publicitaire à la RTBF obligerait de puiser dans les budgets des autres matières, donc ça veut dire quoi? Aller chercher des moyens à l'enseignement, à la santé, au sport. En outre, je pense que quand on dit, et en France on l'a vu lorsque Sarkozy a annoncé la nouvelle qu'il souhaitait supprimer la publicité sur les chaînes de services publics, tout de suite les actions des opérateurs privés ont grimpé, notamment TF1. Donc quelque part, j'ai l'impression aussi que peut-être, si on réduit les moyens du service public, c'est quelque part défendre les opérateurs privés. Et donc moi je pense que c'est un débat un peu hypocrite. Alors aujourd'hui en France, on essaie de trouver des solutions alternatives, de taxer des opérateurs de téléphonie, etc. En Belgique, aujourd'hui certains disent que le débat est mûr, je ne suis pas persuadée. Alors bien sûr, je ne suis pas fermée à la discussion et donc au niveau du Parlement, il y a d'ailleurs une volonté de mettre en place des débats autour de la problématique de la publicité, de la violence, de l'image.
Oui, nous allons y revenir également. Hein. Oui. Mais donc, si on voulait résumer votre position, même si une télévision publique et une radio publique sans pub peuvent paraître souhaitables intellectuellement, c'est totalement impossible, selon vous, en Belgique. On va demander une réaction à votre prédécesseur, Richard Miller, qui est aussi président de la commission audiovisuelle. Vous avez été un peu pris à partie, là, en début d'émission. Oui. Comment vous vous positionnez sur cette question que vous n'avez pas vraiment abordée lorsque vous étiez ministre?
Oui, donc par rapport à ce que je viens d'entendre de la part de la ministre, je suis un peu étonné de l'attaque directe vis-à-vis du MR. On peut quand même ouvrir un débat, on peut quand même réfléchir en communauté française. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la ligne portée par le Parti socialiste et la famille sociale chrétienne depuis l'introduction de la publicité commerciale à la RTBF. C'est un gouvernement PS-PSC qui a décidé cela. Et la famille libérale à l'époque s'est fortement opposée à ça. Il y a eu des débats, ça a été assez dur. Donc, si on veut remonter dans le temps, je n'ai aucun problème.
À l'époque, c'était aussi pour soutenir l'opérateur privé, c'était pas uniquement philosophique.
Oui, je suis aussi surpris d'entendre Madame la Ministre qui a l'air de dire que c'est de l'hypocrisie, c'est soutenir le secteur privé. En quoi est-ce déshonorant d'essayer que les entreprises privées dans notre pays, dans notre communauté, puissent aussi se développer. Et donc, je considère... Alors, juste deux remarques maintenant très précise, et puis je répondrai de façon générale. Oui. Madame la ministre a parlé des recommandations du Parlement pour le contrat de gestion. Ces recommandations, elles n'ont jamais été votées. La majorité PS-CDH a refusé de voter, alors que c'est prévu dans le décret, des recommandations pour le contrat de gestion. Et enfin, deuxièmement, l'annonce de débat au Parlement sur le contenu publicitaire. Madame la ministre dit, il y a ça aussi, c'est bien la preuve qu'on travaille, etc. La majorité n'a toujours rien mis en branle. Ça a été refusé, ça n'a rien bougé, alors que dans le débat, au moment de l'augmentation du plafond, puisqu'on a augmenté le plafond, on a fait crever le plafond des recettes publicitaires à la RTBF, la majorité s'était engagée à ce débat. Aujourd'hui, alors, rien.
Sur donc, le fond, voilà, ça, maintenant, pour que ce soit compréhensible pour les auditeurs.
Pour que ce soit tout à fait vraiment serein. Oui. Donc moi, je ne suis pas ici pour essayer d'accuser quelqu'un. Je ne suis pas occupé de dire que, par exemple, M. Raskin, comme président du conseil d'administration, que M. Philippot font mal leur travail, etc. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est aujourd'hui, temps de poser la question de savoir si la publicité commerciale sur la chaîne publique n'est pas occupée de vicier l'émission de services publics telles qu'elles sont normalement financées par une dotation très importante. Donc la question à mes yeux, elle est celle-là. Les habitants de Wallonie et de Bruxelles payent des impôts. Il y a une partie importante de leurs impôts qui sont consacrés à des missions de service public. Est-ce que ces missions, aujourd'hui, sont bien remplies? Est-ce que l'existence même de la RTBF, à travers une dotation importante, justifie-t-elle le fait qu'il y ait cette distinction par rapport aux chaînes privées? Est-ce que le téléspectateur, aujourd'hui, trouve sur la RTBF quelque chose qu'il ne trouverait pas sur les chaînes privées? Ça, c'est la seule question à se poser. Alors, nous...
Et votre réponse est...
Ma réponse est... Il faut avoir un service public fort en communauté française de Belgique. Donc il n'est pas question d'attaquer les missions de service public. Je m'appuie sur la décision de la Commission européenne qui dit nous devons définir clairement ce qu'est une mission de service public et le financement de celle-ci. Qu'est-ce que coûte cette émission? Et donc nous sommes prêts au niveau du MR à défendre bec et oncle les missions de service public, mais de véritables missions de service public qui soient réellement assumées par la RTBF.
Alors,
et la publicité commerciale pose un risque.
Alors, réplique de la ministre, et puis nous donnerons la parole aux représentants de la SBL Respire, parce que la ministre qui donc participe au gouvernement, n'est-ce pas, Fadila Lalane, ne peut pas rester jusqu'au bout de l'émission. On la remercie déjà d'être présente, bien sûr. Réplique de Fadila Lalane.
Merci, monsieur Gerlache. Eh bien, donc, évidemment, je ne partage absolument pas l'analyse de monsieur Miller, et il n'est pas à une contradiction près. Moi, je suis convaincue, en tout cas, qu'aujourd'hui, grâce à la dotation de la communauté française et grâce aux ressources alternatives de financement liées à la publicité, la RTBF peut justement s'adresser à tous les publics de la communauté française pour remplir ses missions de service public. Et donc, moi, la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que l'on met sur la table un débat, et moi, je n'ai pas de problème à débattre avec M. Miller ou avec d'autres sur la suppression de la publicité, mais alors il faut mettre sur la table des solutions alternatives de financement. Quelles sont-elles? Comment est-ce qu'on peut aboutir à permettre à la RTBF de remplir convenablement son cahier de charges et de s'adresser à tous les publics? Et donc, moi, j'ai l'impression plutôt, et je n'ai rien contre le privé, évidemment, puisque je dis toujours que même la culture a besoin d'être soutenue par des financements différents que ceux des pouvoirs publics qui ne sont pas suffisants. Et donc, il est important qu'il y ait une dynamisation des opérateurs privés, qu'il y ait une dynamisation des producteurs qui puissent travailler et faire en sorte que l'on puisse rendre un projet économiquement viable. Mais ici, moi, j'ai plus l'impression que M. Miller fait le jeu des opérateurs privés, que c'est ça qu'il défend aujourd'hui, et que cela se fera aux dépens du service public, et ça, je ne le souhaite absolument pas.
Très bien, merci beaucoup, Madame la Ministre.
On vous laisse, juste un mot, si vous le permettez, oui. Par rapport à que M. Miller aurait des contradictions. Ce que je viens d'entendre chez Madame Lalane est bourré de contradictions aussi. Et je suis très honoré, très très content de voir qu'une ministre socialiste défende à fond la publicité commerciale.
Merci, Madame la Ministre. Alors, nous poursuivons le débat avec Jean-Baptiste Godino. Vous êtes membre de l'ASBL Respire. Vous devez être ravi d'être ici. Parce que l'ASBL Respire, dès qu'on parle de pub, vous arrivez avec la cavalerie lourde. Il y a quelques... Si je ne me rappelle plus du sujet. Allez,
c'était lié à la publicité.
Ouais,
le GEP,
voilà. Alors, en deux mots, Jean-Baptiste Godino, vous représentez qui exactement?
Alors, nous représentons quelques membres et de nombreux sympathisants. Le nombre exact n'est pas exactement connu, mais surtout, nous faisons passer le message d'une association engagée contre l'envahissement de la publicité commerciale. Et ça, c'est une préoccupation qui est partagée par un très grand nombre de personnes. Donc, par exemple, en 2003, un sondage réalisé par le bureau d'études Significant GFK indiquait que 75% des Belges estiment qu'il y a trop de publicité à la télévision.
Donc, quand vous avez entendu le Nicolas Sarkozy, vous avez crié « Alléluia ».
Alléluia, n'allons pas jusque-là, n'allons pas trop vite en besogne, hein, il faut voir ce que ça donnera en réalité.
Vous êtes contre la pub, donc vous, l'idéal, c'est une RTBF sans pub.
Voilà, et c'est l'occasion de répondre à la ministre, puisqu'elle déclarait à l'instant que l'idéal serait bien entendu une RTBF sans pub. Je pense que c'est également le souhait de M. Raskin, de M. Miller, c'est également ce que souhaite M. Philippot, administrateur général de la RTBF. Donc tout le monde sans vouloir une RTBF sans pub. A priori, une RTBF libérée de la pression commerciale serait plus proche de ses objectifs de service public, de ses missions de service public, donc ça a l'air souhaitable. Et ça a l'air d'être un souhait partagé par de nombreuses personnes, y compris parmi les dirigeants. Et donc on ne voit pas très bien ce qui empêcherait qu'une réflexion approfondie et extrêmement motivée soit entamée dès maintenant sur ce sujet-là, puisque si tout le monde veut une RTBF sans pub, la question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour y aller et quel chemin, quel moyen est-ce qu'on peut emprunter.
Et votre piste?
Et alors la première piste à souligner, excusez-moi, c'est que d'abord en 1984, il n'y avait pas de publicité à l'RTBF, comme la ministre vient de le souligner, ou M. Miller vient de le souligner, pardon. Et depuis 1984, la Belgique et la communauté française sont enrichies. Donc il y a plus de moyens. Donc on ne voit pas très bien pourquoi en 2008, on serait dans la capacité totale d'avoir une RTBF sans publicité, alors qu'il y a plus de moyens. Alors, bien entendu,
mais l'environnement est complètement différent.
L'environnement,
que ce soit l'environnement de la télévision ou même l'environnement des médias.
Tout à fait. Mais a priori, ça n'empêche pas de pouvoir penser ni imaginer une RPL sans publicité. Alors il faudrait sans doute faire des adaptations dont on ne sait pas exactement la teneur, ni le périmètre, ni les détails. Mais c'est quelque chose sur quoi il faut avancer. Et par ailleurs, on nous reproche toujours de ne pas pouvoir avancer dans les solutions alternatives. Alors, du point de vue de la société civile, et c'est un autre problème extrêmement important auquel on est confronté, c'est que nous n'avons pas les clés pour pouvoir réfléchir sur ce sujet-là. Alors, pour le MR et d'autres partis présents au Parlement et au sein du conseil d'administration de l'RTBF, c'est possible, mais la société civile n'a pas accès aux informations qui permettraient de réfléchir en profondeur sur ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle on demande depuis 2 ans que le Parlement, via une commission parlementaire ou un groupe d'experts, réalise une étude approfondie sur la situation actuelle de la RTBF du point de vue budgétaire et du point de vue service public en général. Et on n'obtient strictement aucune réponse ni de la direction de la RTBF, ni des pouvoirs publics.
Alors attendez, on va entendre Jean-François Raskin tout de suite. Je rappelle, vous êtes Jean-François Raskin, président du conseil d'administration de la RTBF. Vous n'avez pas attendu Nicolas Sarkozy pour vous poser la question de la pub, oui ou non, à la RTBF. J'imagine que c'est une question récurrente qu'on vous pose.
Qu'on me pose régulièrement. Pour répondre à M. Godinot, quelques chiffres. La subvention publique, toutes les formes de subventions publiques qui arrivent à l'RTBF, ça représente 196 millions d'euros. La masse salariale aujourd'hui à l'RTBF, il y a eu plusieurs plans, donc on a perdu pratiquement un quart de l'effectif de l'RTB. Aujourd'hui, la masse salariale représente 166 millions. 196, 166. Aujourd'hui, si je regarde le paysage...
Ça, c'est un problème. On lit dans la presse que M. Philippot gagne 200 000 euros par an et que M. Bigot a des salaires également tout à fait intéressants.
Mais nous n'allons pas personnaliser et de toute façon...
Mais il y a un problème,
c'est ça qui fait la grande différence.
Oui. C'est vraiment une autre question. C'est une question à la limite qui ne vous regarde pas.
C'est juste.
196 millions. Si je compare avec les chaînes de télévision et radio en Europe, nous sommes, en Europe et dans les pays civilisés, nous sommes la chaîne de télévision et de radio la moins bien dotée. C'est clair, tous les chiffres sont là. Je peux vous citer des chiffres. Portugal, on est à 300 millions de budget. L'Irlande, 300 millions. La VRT, on est à 400 millions. Et si on compare même avec la BBC, parce qu'on dit la BBC n'a pas de publicité, la BBC, c'est 4 milliards de budget, hein. 4 milliards à côté de 196 millions. Donc, pour faire un journal télévisé à la BBC ou faire un journal télévisé à l'RTBF, ce sont les mêmes sujets, ce sont des journalistes qui travaillent, ce sont des techniciens. Donc, il faut parler faut comparer ce qui est comparable. Moi, je dirais qu'il y a 3 modèles, en gros, qui existent aujourd'hui dans le domaine de la télévision publique. Il y a un modèle qui est la concession d'État avec des missions et un budget, et c'est le plus offrant qui remporte le marché. Il y a une deuxième conception de télévision publique ou de service public audiovisuel, c'est PBS aux États-Unis. Ce sont des audiences totalement dérisoires, et on a une chaîne de télévision qui vient en complémentarité de ce que fait le privé. L'évolution, l'histoire de la télévision aux États-Unis, ça a d'abord été du service privé, et puis c'est les pouvoirs publics qui se sont dit, il faut peut-être créer aussi, nous, notre propre service public, parce que effectivement, il y a des dérives qu'on peut voir sur le privé, sur les chaînes privées, et qu'il est peut-être nécessaire aussi de créer notre propre opérateur avec des missions de service public. Mais aujourd'hui, PBS s'adresse à un milieu, à une classe sociale moyenne, plutôt intellectuellement favorisée, avec des audiences qui sont complètement marginales et qui fait que PBS n'existe pratiquement pas dans le paysage audiovisuel aux États-Unis. Et puis il y a une conception qui est très européenne, qui est dite de dire il faut un service public fort. Mais service public fort, ça veut dire qu'il y a des chartes de valeurs, qu'il y a des missions de service public qui sont décidées par le pouvoir politique et qui en même temps couvrent l'ensemble des genres et des programmes. Ça veut dire qu'on doit faire du divertissement, qu'on doit faire de la série télévisée, qu'on doit faire de la production, qu'on doit faire des émissions d'information, bref, des émissions de jeunesse, des documentaires, bref, tous les genres sont approchés et sont prévus dans la programme et dans le fondement même du service public. C'est le modèle qu'on a choisi. Mais pour faire cela, ça nécessite beaucoup de moyens. PBS demande beaucoup moins de moyens. Si on fait simplement une chaîne de télévision de complémentarité à ce qui existe dans le privé, on peut liquider la moitié du personnel et on peut effectivement se contenter, et avec encore moins, je pense, moins de subventions que ce que nous recevons aujourd'hui. Mais si on veut faire l'ensemble du panel de ce qui existe aujourd'hui, et avoir un objectif d'audience, l'objectif d'audience est essentiel pour la télévision de service public. Je ne vois pas comment on pourrait justifier même son existence avec des audiences qui soient confidentielles. Et toucher toutes les populations, toutes les couches de la population, et pas simplement des gens qui sont formés, qui sont intéressés parce qu'il y a une offre plus intelligente, et en même temps... Il y a une autre réflexion que je voudrais aussi avoir, c'est la publicité. En quoi la publicité empêche que des programmes de qualité se fassent ? Moi, je suis pas pour la publicité à la télévision, je suis même plutôt contre la publicité. Je trouve qu'il y a trop de publicité dans le monde en général, pas qu'à la télévision, pas qu'à la radio. Quand je prends ma presse magazine, je trouve qu'il y a trop de pubs. Il y a des magazines féminins où il y a trois quarts de pages sont de la publicité. Il y a de la publicité sur les affiches. J'avais un professeur de l'ULB un jour qui m'avait dit, je me suis promené avec ma fille dans les rues de Bruxelles, et j'ai pu examiner l'affichage publicitaire. Il dit, j'étais effrayé. L'image que l'on donne de la femme à ma petite fille, je trouvais ça totalement effrayant.
Mais alors la question justement qui est posée au-delà du financement et du mode du financement, c'est celui de la place du service public et de sa ligne éditoriale.
Mais oui, si vous le permettez, donc je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par Monsieur Raskin. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un débat politique, un débat parlementaire sur la question. Il est impossible aux responsables de la RTBF de sortir de ce qui leur est imposé par un contrat de gestion, par les contraintes du marché, etc. Et donc, c'est aux politiques à prendre ses responsabilités en disant, voilà, quel service public voulons-nous ? La Commission européenne vient de relancer le débat et elle demande que ce soit clairement défini. Quel service public voulons-nous ? Avec quelle mission ? Et sur cette base-là, alors, pouvoir dire quels moyens donnons-nous, comment allons-nous le financer. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et dire on supprime la publicité commerciale d'un coup de trait à la RTBF, ce serait tout à fait...
Sarkozyste.
Je ne sais pas si M. Sarkozy va réussir à le faire, ce qui me permet d'ailleurs de répondre à Fadil Al-Anan que Carla Bruni ne m'attend pas dans une voiture à l'extérieur. J'ai du temps pour rester avec vous. Mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut que le Parlement se prononce. Ce que je reproche à la majorité PS-CDH, c'est d'avoir rejeté le vote de ces recommandations. Le Parlement dit, voilà les missions de service public que nous voulons.
Alors avant d'entamer la deuxième partie où on abordera les questions plus au fond sur l'avenir d'un service public avec ou sans pub, Jean-Baptiste Godino, votre réaction, et puis on en restera là pour cette partie purement financière. Si
oui, merci. Je voudrais répondre à M. Raskin qui avait l'air d'opposer un service public culturel, voire cultureux, réservé à une élite qui s'adresse à peu de personnes et qui est des missions réduites et un périmètre réduit, à un service public généraliste comme celui de la RTBF. Donc en gros, un PBS américain un petit peu soporifique et un service généraliste avec de la publicité commerciale comme la RTBF. Or ça, c'est une opposition qui me paraît construite et qui n'est pas du tout inéluctable ni indépassable. On peut tout à fait imaginer autre chose. On peut imaginer un service public dynamique avec une identité forte qui soit ancrée localement et qui se débarrasse petit à petit de la pression commerciale par différents moyens, soit en cherchant du côté des économies, il y en a beaucoup à faire, c'est certain, mais il faudrait pour ça savoir un petit peu sur quel poste est-ce qu'on peut agir, et en même temps, par un mode de refinancement qu'il est possible d'envisager, mais ça c'est de façon plus complexe, en agissant au niveau communautaire, fédéral ou même européen.
Réponse de Jean-François Raskin, en vitesse.
Je pense que de toute façon, la qualité, c'est vraiment quelque chose que nous cherchons. Je pense que si nous cherchions l'audience, à moins d'avoir des équipes à la RTBF qui sont des nullités finies. Je crois qu'on est aussi capable de faire de l'audience. Si on pouvait faire de l'audience,
c'est pas du tout le propos qui était tenu.
Nous cherchons aussi à faire de la qualité et des références. C'est une des missions fondamentales, me semble-t-il, du service public. Face à cet émiettement, cet éparpillement des audiences, des moyens d'avoir aujourd'hui des programmes audiovisuels, que ce soit en VOD, par l'Internet, ou toutes les chaînes de télévision, dans les bouquets que nous avons aujourd'hui, 70, 80, 200 chaînes de télévision aujourd'hui. Ça veut dire que le service public, plus que jamais, dans tous les genres, doit être une référence. C'est là qu'on va chercher, si on est perdu à un moment donné, c'est là qu'on va vraiment chercher le socle même, le lien social, en quelque sorte.
Alors, on va parler justement de la force et du pouvoir de ce service public. Il est 10h37, ce Média Première. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à nos invités, je vous donne le numéro de téléphone. Vous allez sur Média Première, en un mot, @rtbf.be. Le numéro de téléphone, c'est le 02 737 26 06. Dans quelques instants, le sociologue français Dominique Volton nous rejoindra. C'était sur la Première, Média Première, pour ou contre la pub sur le service public. Il est 10h40, je vous rappelle nos invités, Richard Miller, président de l'intergroupe parlementaire et maire, ancien ministre de l'audiovisuel, Jean-François Rasquia, président du conseil d'administration de la RTBF, Jean-Baptiste Godino, membre de la SBL Respire, et par téléphone, le sociologue Dominique Volton, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, on a eu le débat belge là maintenant, on va élargir le débat, pour ou contre la pub dans le service public, Dominique Volton?
Écoutez, comme l'a dit un de vos interlocuteurs, le problème est mal posé. Hein. La question principale, c'est qu'est-ce qu'on veut comme télévision de service public. Et en vous écoutant, je me disais, mon Dieu, c'est quand même incroyable que 25 à 30 ans après l'arrivée de la télévision privée, des nouvelles technologies, de l'élargissement du marché de la communication, des enjeux de la dérégulation, qu'on en soit encore à essayer de défendre le bien fondé de la télévision publique dans un espace concurrentiel, ça veut dire que la bataille n'est toujours pas gagnée au niveau intellectuel. Quoi.
Vous pensez qu'elle le sera un jour?
Oui, je pense, mais ça dépend de deux choses. La première, c'est ma colère depuis 30 ans que les intellectuels arrêtent de ne pas réfléchir à ce sujet essentiel pour comprendre l'intérêt général. C'est comme si, vous voulez, sur l'éducation, sur la recherche, sur la santé, on disait, mais l'enfant, est-ce qu'on a besoin finalement d'une éducation publique? Est-ce qu'on a besoin d'une recherche publique? Le marché est formidable et tout le monde hurlerait en disant, mais c'est invraisemblable, uniquement parce que dans nos pays, européens en particulier, qui sont quand même fondateurs dans le service public, on a quand même une réflexion sur ce que c'est que l'intérêt général, sur l'éducation, la recherche, etc. Et sur les élites intellectuelles ont détesté la télévision et ont adoré la télévision culturelle ghetto. Et du coup, aujourd'hui, au moment où il faut se battre une fois de plus pour sauver le service public, elles sont pas loin de considérer qu'en définitive, un service public rikiki, réduit à du PBS américain élargi en Europe, suffirait. Alors même, c'est un enjeu politique mondial. Je répète tout à la même chose, nous n'avons que 5 grands services publics au monde, les Allemands, les Britanniques, les Français, finis pour l'Europe, et après les Canadiens et les Japonais. Donc si vous voulez se battre pour le service public en général, qu'il y ait de la publicité ou pas de la publicité, c'est une mission d'intérêt général, vous voyez. Donc bien sûr qu'il peut y avoir de la publicité à la télévision publique dès lors que les ressources attribuées par la publicité ne dépassent pas 20 à 30%, voilà. Mais l'enjeu, c'est pas la publicité à la télévision publique. L'enjeu, c'est pourquoi veut-on que la télévision publique devienne culturelle, étroite? Pourquoi déteste-t-on le grand public? Pourquoi déteste-t-on ce que fait la télévision privée et que peut faire tout à fait la télévision publique, c'est-à-dire être capable d'être cette fenêtre ouverte sur le monde pour tous les publics et ne pas avoir honte de faire des jeux, des variétés,
Dominique etc. Volton. Dominique Volton, est-ce que selon vous, le débat qui est posé sur la suppression de la publicité à France Télévisions pose la question justement du rayonnement et du périmètre, je dirais, culturel et éditorial de la télévision publique?
Écoutez, c'est un débat récurrent depuis 30 ans, où il avait vraiment disparu depuis 15 ans, il y a rien. Aujourd'hui, dans l'état mondial de la concurrence, et en Europe en particulier, c'est évidemment une problématique perverse. C'est-à-dire, apparemment, c'est du bon sens, argent public, télévision publique, et pas d'argent privé pour la télévision publique. Or, il se trouve que la télévision publique est dans un espace concurrentiel, que la pub fait partie de la vie, que je vois pourquoi le service public ne recourrait pas à ça, et que si jamais on ne recourt pas à la publicité pour financer une partie du service public, alors il faut arriver à des systèmes plus simples, soit on augmente partout la redevance, et on dit à ce moment-là que c'est un impôt démocratique fondamental pour avoir un service public de qualité avec des moyens, parce qu'il n'y a pas de télévision publique sans moyens, soit on trouve un moyen simple, dépolitisé, public, pour avoir un financement pérenne et dynamique, voilà. Mais de toute façon, la question, c'est pas la pub ou pas la pub à la télévision publique. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on est tout le temps obligé de se relégitimer. Et alors, pourquoi c'est pervers pour le cas de la France, par exemple? C'est que si vous voulez, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que tout le monde a tout vu? C'est qu'on va avoir un système extrêmement compliqué et tordu. On va prendre une taxe sur la publicité des télévisions privées pour financer la télévision publique. Complètement tordu. Et des taxes, une fois de plus, sur éventuellement une nouvelle technologie. Tout le monde va gueuler, les lobbies vont se mettre en place, et on va constater dans un ou deux ans, s'il n'y a pas de changement de mentalité, que finalement, finalement le service public n'a pas assez d'argent pour le financer, qu'il faudrait mieux privatiser une des chaînes. Or, vous ne pouvez avoir, dans un espace concurrentiel où, je le répète, la télévision publique ne dépasse jamais 30 à 40% d'audience globale, vous ne pouvez avoir un service public concurrentiel que si, naturellement, il a plusieurs canaux. 8 canaux pour la BBC, 5 actuellement pour France Télévisions. Si jamais vous rédigez les canaux, vous rédigez évidemment la capacité de concurrence. Donc le problème, encore une fois, c'est pas le financement. Le fait que le service public en Europe soit sous-financé, ça traduit le fait que les Européens sont aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, dans une idéologie de dérégulation classique au niveau mondial, mais stupide pour l'Europe, de croire que le privé va servir, va suffire à financer les nouvelles technologies, la radio, la télévision. Il y a un problème, si vous voulez, de retard mental des Européens par rapport aux enjeux mondiaux de la communication. Et la question de la télévision publique n'est qu'un sous-ensemble de cette question.
Alors, Dominique Volton, nous avons dans ce studio deux personnes qui sont, en tout cas pour l'ouverture de ce débat, et qui vont réagir. Donc, Richard Miller, qui est ancien ministre de l'audiovisuel et président de la commission audiovisuelle du Parlement de la Communauté française.
Oui, évidemment, les propos qui viennent d'être tenus sont fort importants, fort intéressants. Il y a tout un ensemble d'aspects. Je pourrais prendre d'autres arguments. Je pourrais revenir sur les impôts payés par les citoyens. C'est une dotation très importante. La RTBF, le service public de radio-télévision en communauté française, parce que ça, il faut le dire à Dominique Volton, notre communauté est évidemment très petite. Et donc, voilà. Mais ça n'est pas très réservé. Et donc,
c'est la PSR, c'est 400 millions.
Hein. Oui. L'argent versé par les citoyens doit leur apporter ce à quoi il est destiné. Si nous devons financer des missions de service public, il faut que la RTBF le fasse. J'ai dit que je n'allais pas polémiquer et donc je ne vais pas entrer dans le détail d'une analyse de tout ce qui passe sur antenne aujourd'hui, mais il y a des choses qui ne vont pas.
Voilà. Vous trouvez que la télévision publique ne correspond pas à la ligne qui vient, par exemple, d'être présenté par Dominique Volton.
Ah, ça je trouve. Est-ce que Dominique Volton considère que passer 1770 séries américaines sur la chaîne publique de la télévision belge, est-ce que c'est une mission de service public?
Eh bien, nous allons lui poser concrètement la question. Permettez-moi
juste un mot par rapport à la fin de son intervention. Oui. Juste un mot par rapport à la fin de son intervention. Je suis tout à fait d'accord sur le manque de volontarisme européen. Si la Commission européenne veut un audiovisuel public au sein de l'Union européenne, il faut aussi qu'elle le finance.
Dominique Volton, les séries américaines à la télévision publique. Voilà un exemple concret et qui permet d'en tirer un certain nombre de conclusions.
Alors d'abord, je rappellerai d'ailleurs sur l'idéal un peu naïf qu'il y a à l'égard de la BBC. C'est la BBC qui a inventé la télé-réalité, qui est aujourd'hui sur un certain nombre de télévisions privées. Donc par conséquent, le service public peut faire des bêtises et les Britanniques revendiquent la télé-réalité. Nous, en France, par exemple, vous n'avez jamais eu de télé-réalité en télévision publique.
Chez nous,
sur le problème du coût, Patrick de Carolis faisait un papier dans Le Monde qui est classique. C'est qu'une série américaine, en gros, ça coûte 100 000 euros. Une série originale à produire, ça coûte 1 million d'euros. Donc pourquoi vous avez tant de séries américaines sur la télévision publique? C'est pas parce que les dirigeants de la télévision publique sont des abrutis qui n'ont aucune envie, c'est d'américaniser. C'est parce que compte tenu des ressources qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire autre chose que d'acheter. Oui. Donc je suis 100% d'accord pour réduire la part des séries américaines, quoique les Américains sont doués en audiovisuel, et je voudrais bien que nous, les Européens, on soit capables de faire des séries américaines de même qualité, de telle sorte qu'on puisse les forcer à les acheter, parce que vous savez que le marché américain est extrêmement protectionniste. Mais l'enjeu, si on veut que la télévision publique européenne, tout pays confondu, soit capable d'être original et créatif, il faut qu'il ait plus de moyens. Et la question de l'impôt lié à la redevance, moi ça m'est égal que ce soit une redevance ou un impôt. Mais la question de fond, c'est si les dirigeants européens ne sont pas capables de dire à leur peuple, écoutez, vous n'aurez de télévision publique de qualité que parce qu'il faut payer pour ça, comme vous payez pour les routes, comme vous payez pour la santé, ça veut dire que les dirigeants européens n'ont pas compris l'intérêt politique et culturel de la télévision publique en général. Et le fait que la redevance soit toujours en deçà des moyens de financement, ça prouve que, par une espèce de démagogie de toute classe politique confondue, droite-gauche, on dit, oh là là, c'est pas populaire. Mais comme je l'ai dit 20 fois, aucun impôt n'est populaire. Simplement, on les paye si on pense que c'est intéressant. Et dernière chose, si on veut que le public aime la télévision publique, il faut, hélas, ou tant mieux, c'est tout l'enjeu de la démocratie, l'offrir toute la gamme des trucs les plus populaires jusqu'aux produits les plus élitistes. Mais c'est toute la gamme et pas seulement la gamme culturelle.
Attendez, Dominique Volton, on va donner la parole au président du conseil d'administration de la RTBF, Jean-François Rasquin. Monsieur Rasquin, sans publicité, on ne pourrait pas, nous, ici à la RTBF, produire des séries belges?
Mais non, je vous l'ai dit tantôt, 196 millions de subventions publiques, la masse salariale c'est 166 millions. Si je regarde, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Volton vient de dire, si on regarde aujourd'hui le coût d'une émission de télévision, Millefeuille par exemple, quand on fait une émission Millefeuille sur les livres...
Donc une émission littéraire.
Une émission littéraire. Aujourd'hui, cette émission-là, elle coûte 21 000 euros par numéro. Si je regarde aujourd'hui la Shark, une série américaine, c'est 8000 euros. Voilà.
Vous avez ces chiffres-là, il faut que tout le monde les ait en tête. Avant, oui, je suis d'accord qu'il y a souvent trop de séries américaines. Quoique, si vous regardez la grille de France Télévisions, vous apercevez qu'il y en a peu, mais laissons tomber. La télévision publique en Europe est condamnée à prendre des séries américaines sur le marché international parce qu'il n'a pas de ressources pour créer. Et je vais même aller plus loin, si vous voulez. Si on donne de l'argent à la télévision publique, je suis persuadé qu'en moins de 15 ans, la télévision publique en Europe sera le laboratoire de la créativité audiovisuelle. Parce que quand vous êtes une télévision privée, et c'est tout à fait normal, votre objectif, c'est de gagner de l'argent. Si vous de l'argent sur 4 ou 5 types de programmes, vous vous embêtez pas. Mais la créativité audiovisuelle sur les scénaristes, les auteurs, les producteurs, etc., elle ne se fait pas sur la télévision privée. Donc elle doit pouvoir se faire sur la télévision publique à condition qu'il y ait de l'argent pour le faire.
Alors,
donc, du point de vue européen, nous sommes complètement mazos et complètement fous de ne pas nous rendre compte que la question de la créativité audiovisuelle, c'est quelque chose dont les Américains n'ont absolument pas à avoir le monopole. Ils sont assez doués, tant mieux pour eux. Mais nous avons vu la richesse culturelle, intellectuelle et scientifique en Europe énormément et que la télévision publique devait être un des moyens de la créativité.
Alors Dominique Volton, nous avons aussi dans ce studio un représentant peut-être de ces intellectuels anti-pub à courte vue que vous dénoncez, il le dira lui-même s'il s'est senti visé, mais qui a un certain nombre d'arguments sans doute à vous opposer, Jean-Baptiste Godino.
Merci, oui. J'ai noté notamment que M. Volton déclarait que la pub fait partie de la vie, ce qui était exactement le slogan de la campagne publicitaire du lobby du même nom en Belgique. Et ça me pose plusieurs questions. Et ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec ce qu'il disait auparavant, puisqu'il déclarait que le service public se trouve dans un système concurrentiel. Mais le service public a cette particularité de recevoir également de l'argent public, une dotation. Donc, et cette dotation est destinée à le sortir de cette logique concurrentielle. Et il est absolument évident que si on veut penser une politique audiovisuelle ambitieuse, de qualité, qui permette de sortir l'information et la culture d'un système de marchandisation dans lequel elles ne peuvent pas être, eh bien, il faut pouvoir envisager les choses autrement et sortir de cette logique concurrentielle. Puisqu'alors, si après, on déclare que réduire les canaux, et c'est ce que M. Volton déclare qui pourrait se passer en France, réduire les canaux, c'est réduire la capacité concurrentielle, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que on se met soi-même dans un système qui est celui de la concurrence, et alors on est obligé de jouer ce jeu-là, et il faut compléter les dotations publiques et les financements publics d'apports commerciaux. À ce moment-là, on entre dans le cercle vicieux d'une logique du marché qui est pernicieuse, qui est mauvaise pour l'information et la politique de l'audiovisuel. On peut penser autre chose, et le Parti Socialiste en Belgique l'avait fait notamment pour les systèmes de soins de santé. On se rappelle que M. De Motte avait initié une mobilisation européenne pour que les soins de santé ne soient pas inclus dans la directive Bolkestein. C'est quelque chose qui a été repris par de nombreux pays, qui finalement est advenu. Les soins de santé ont été sortis de la directive Bolkestein, enfin la BIS. Et voilà,
Vous pensez que ce soit nécessaire pour le service public aussi? Réplique de Dominique Volton.
Oui, alors écoutez, que la directive Bolkestein doit être amendée sur tout l'enjeu des industries culturelles et de la communication, je suis à 100% d'accord. Écoutez, de toute façon, la conséquence de la reconnaissance de la diversité culturelle par l'UNESCO et son entrée dans le droit international va obliger à ce que la prochaine bataille politique à l'OMC porte sur les industries culturelles et de la communication. Donc nous aurons, à mon avis, en commun, à mener une bataille pour effectivement que la culture et la communication ne soient pas uniquement dans le marché. Mais hélas, là où je suis un peu en désaccord avec vous, c'est que vous ne pouvez pas remettre la culture et la communication complètement hors du marché parce que nous vivons dans un espace concurrentiel. On doit leur donner les moyens de faire autre chose. Et je prends un exemple simple.
On peut renforcer le protocole d'Amsterdam.
Pardon ?
Oui, enfin, on va pas être trop précis parce que même moi, je me sens un peu parfois largué ici, mais en tout cas sur le fond. Non,
encore un mot, Dominique Volton, parce que nous arrivons au terme de cette émission. Un mot, Dominique.
Une seule chose. Le récepteur, c'est à vous et moi au bout. C'est lui qui choisit, c'est-à-dire que pour qu'il choisisse le service public, il faut naturellement qu'il comprenne la différence du public par rapport au privé dans un espace concurrentiel, parce que moi, nous vivons dans un espace concurrentiel. Et moi, personnellement, je n'ai pas du tout peur du service public dans la concurrence, pas du tout. Si on lui donne les moyens, si on le valorise, si on lui donne la place qu'il doit avoir dans l'Europe et plus généralement dans le monde, je pense qu'on verra la différence, parce que le public va progressivement en avoir assez de cette télévision privée qui est complètement entrelardée de publicité, de mauvais programmes. Mais simplement, vous ne pouvez pas retirer la télévision publique de l'espace concurrentiel. Il faut que dans cet espace, elle montre jour après jour sa différence. Et moi, je fais confiance à l'intelligence des citoyens pour au fur et à mesure montrer. Dernière chose, Arte, qui est une chaîne publique de culture, n'a hélas jamais augmenté son audience, qui est entre 800 000 et 1,2 million de spectateurs, parce que c'est très bien une chaîne culturelle, mais si vous voulez, ça ne correspond pas à une chaîne grand public, c'est tout. Et c'est pour ça que je dis que les intellectuels n'ont pas assez réfléchi, pas plus que les politiques, hélas, sur l'importance d'une télévision publique qui puisse toucher tous les publics. C'est ça sa grandeur, pas télévision publique sans public, si vous voulez. Sinon, c'est le gâteau.
Dominique Volton, on vous remercie beaucoup et à bientôt en Belgique, car je sais que vous êtes un habitué de la Belgique.
Je viens chez vous quand vous voulez.
Merci, Dominique.
Parce que la dernière chose, la Belgique, c'est les problèmes politiques qui s'y posent, c'est l'avant-garde.
Merci, Dominique Volton.
Richard, beau cœur.
Richard Villers, 30 secondes,
oui,
une conclusion.
Alors, en 30 secondes, on vient de citer Arte, chaîne ghetto culturel. Et donc la RTBF doit faire tout le contraire. Et donc je suis totalement opposé à la liaison entre la RTBF et Arte. C'est quelque chose qui, à mes yeux, est inacceptable. Et d'un autre côté, comment pouvoir justifier quand qu'un des responsables de la maison puisse être heureux de dire qu'il a pu acheter pour 2009 la série américaine Californication. Est-ce que l'argent public doit servir à acheter cette série-là ?
Réponse de Jean-François Raskin.
C'est pas une réponse. Je dirais il faut avoir des émissions qui font des audiences importantes pour fédérer du public, pour qu'il l'amène sur la RTBF. Non, pour qu'il l'amène sur la RTBF, pour lui permettre d'aller voir autre chose. Il y a aussi une réflexion que je voudrais aussi lancer et qui me paraît assez fondamentale. C'est-à-dire, il y a 12, 13 télévisions locales et communautaires qui reçoivent aussi des moyens. Est-ce qu'on peut pas à un moment donné réfléchir sur la création d'une sorte de holding public de l'audiovisuel où on permettrait de décommuniser des structures, des moyens techniques, du personnel et d'avoir un vrai programme et un vrai projet culturel, public pour l'ensemble de la communauté française avec tous les moyens dont on dispose.
Sur cette proposition qui apparemment met tout le monde d'accord autour de cette table et je dirais ouf, hein, Alain Gerlin,
bien sûr.
nous allons nous quitter. Merci messieurs, Jean-François Raskin, président du conseil d'administration, Jean-Baptiste Godino de l'ASBL Respire et Richard Miller qui était là aussi avec nous. Dans quelques instants, les informations de 11h sur la première, mais restez avec nous car nous continuons de plus belle après les informations, Alain, avec les web radios et la présence du directeur de la radio de la RTBF.
Pour envisager tous les futurs possibles pour ce média qui est ancien mais qui reste quand même très très présent dans la vie de tout le monde.
Si vous avez des questions à poser ou si vous avez des questions à poser en général sur les radios de la RTBF, vous pouvez les poser à Francis Goffin qui essaiera de répondre juste après les informations de 11h si on a le temps, au 02 737 26 06. 02 737 26 06. Dans quelques instants, la pub.
Eh oui, évidemment.
Eh oui.
Média première de 10 à 11h30 sur la première.
Oui, nous allons continuer Média Première. Vous savez, cette émission qui décortique les médias, Delphine. Et dans quelques instants, nous allons avoir le patron, le directeur général des radios de l'ARTBF, Francis Goffin. Nous parlerons notamment des web radios.
Média Première, Jean-Pierre Autier, Alain Gerlache.
Retour de Média Première, nous sommes ensemble, vous le savez, sur la première jusqu'à 11h30. Nous allons parler radio et web radio, Alain Gerlache.
Oui, c'est une des innovations qui ont été développées récemment et on va pouvoir essayer d'abord de comprendre de quoi il s'agit et ensuite de voir quel est plus globalement le futur de la radio.
Francis Goffin, directeur général de la radio, nous a rejoint. Il répondra à nos questions et à vos questions. Vous pouvez poser au 02 737 26 06, 02 737 26 06, juste après Étienne Dao. Il est 11h10, c'est Média Première. Nous allons parler de la radio et des radios de la RTBF. Alain Gerlache avec notre invité, le directeur général des radios de la RTBF. Bonjour Francis Goffin.
Bonjour.
Alors, vous allez parler des web radios, mais on peut aussi parler de RTBF Mobile Info. Au fond, la RTBF Radio, c'est un peu comme les Galeries Lafayette. Francis Goffin, il se passe toujours quelque chose.
C'est ça qui est formidable, je trouve. C'est un grand chantier, en tous les cas pour moi. C'est un vrai plaisir parce que il y a 5 chaînes, nous avons des coopérations internationales, nous avons des services comme RTBF Mobile Info, les web radios, qui sont des services nouveaux, dont on va parler ce matin. Et donc, pour moi, c'est un vrai plaisir, parce que évidemment il y a les problèmes quotidiens de la gestion d'une entreprise publique, ce qui est souvent plus compliqué qu'une entreprise privée, tout le monde le sait. Mais à côté de ça, la RTBF offre des perspectives, parce qu'elle est tellement importante, elle est tellement impliquée dans notre société à différents niveaux, puisqu'on passe de musique 3 à pure FM en passant par la première, Vivacité, Classique 21. Donc on est sur des publics différents et on est avec une mission importante. On se sent tous, je pense, autant vous, Jean-Pierre Routier, que Alain Gerlache, qui vous êtes des anciens de la RTBF. On sent, quand on est à la RTBF, on se sent quand même une mission vis-à-vis du public. Et quand on a du sens, oui, certainement. Et quand on a la chance, dans la fonction que j'occupe, d'avoir un job aussi varié,
hein, en termes, autant en termes de produits qu'en termes de développement, mais c'est un vrai plaisir.
Pardon. Oui, non, une question qui fait le... On est tellement pro qu'on se marche sur les pieds. Voilà, c'est ça être ancien de la
télé. Oui, mais ça arrive rarement.
Non, ça arrive rarement, mais comme on a le directeur, évidemment, on se précipite pour déraper. Petite question qui fera le lien avec le sujet précédent. Il y a quand même toujours chez beaucoup d'auditeurs le sentiment que la pub est intrusive ou agressive. Comment vous réagissez à cela, indépendamment du débat de fond? Est-ce qu'il faut la supprimer?
Simplement,
en tant qu'auditeur, il y a, c'est vrai, et des questions sont arrivées sur le fait que la pub paraît quand même parfois... pour certaines personnes, et elles ne sont pas rares, une forme d'agression.
Oui, je conçois ça parfaitement. En fait, je crois qu'il y a une réaction à la publicité, une relation à la publicité radio qui est très différente d'une radio à l'autre, d'un format de radio à l'autre. Et je conçois parfaitement que dans une chaîne comme La Première, il y a à un moment donné une réaction négative par rapport à l'intrusion de la publicité, parce que dans le prime time, il y a effectivement assez bien de publicité. À cette heure-ci, elle ne nous envahit pas beaucoup. Nous pouvons parler ici jusqu'à la fin de l'émission. Je crois qu'il n'y a aucun écran publicitaire qui est prévu, sauf à la fin entre...
Je crois qu'il y en a un petit quand même, à 11h30. C'est la fin de la mission, c'est vrai, vous avez raison.
Voilà, à la fin de la mission, voilà. Vous voyez donc, il n'y a pas d'écran publicitaire. Et ça, c'est quand même un espace exceptionnel. Il n'y a plus que des chaînes comme La Première ou Musique 3 qui offrent des plages quasi sans publicité. Mais... parce que c'est le nerf de la guerre. Le prime time, le matin, et c'est là que nous avons surtout des réactions, au moment où il y a le plus d'auditeurs qui sont à l'écoute. C'est comme ça dans toutes les radios du monde. C'est le prime time, c'est le matin en radio. À ce moment-là, ben, tout le monde écoute la radio, tout le monde attend l'information, surtout sur une chaîne sur La Première, et il y a de nombreux écrans publicitaires. Et je peux comprendre que ça peut déranger certains, parce qu'elle est effectivement un peu intrusante.
Est-ce qu'on peut imaginer plus de pubs sur La Première, Francis Goffin?
Plus de pubs?
Encore plus encore qu'il plus. Y en a aujourd'hui?
Non, il y a de toute façon des limites légales qui sont de 12 minutes maximum par heure. Voilà, ça voilà, on ne peut pas la dépasser. Nous n'y sommes pas tout à fait, même dans le prime time. Donc, ça pourrait encore augmenter. En fait, vous savez, c'est l'offre et la demande. Nous avons une offre, ce sont des écrans publicitaires, et nous avons une demande, ce qui est canalisée par notre régie publicitaire, sur la demande des annonceurs. Ben, nous sommes à peu près au maximum dans les prime time sur La Première. En fait, le paradoxe, c'est que de nombreux auditeurs de La Première n'aiment pas la publicité, mais que les publicitaires les aiment. Mmh. C'est tout le paradoxe. C'est que La Première représente un type de public qui est recherché par des annonceurs, parce que ce sont des gens qui sont généralement bien éduqués, qui sont bien intégrés dans la société, qui ont un certain niveau social, et certainement d'éducation.
Financier,
oui, mais surtout d'éducation. Mmh. Et donc, ce sont des gens qui sont difficiles à toucher par des masses médias classiques et populaires. Et La Première leur permet d'entrer en contact avec eux. Voilà, donc c'est une cible qui intéresse les annonceurs. Et donc, La Première, qui est une chaîne de référence, et dont on sait qu'elle n'est pas la première chaîne du marché, c'est pas une chaîne populaire, eh bien, elle est fort demandée par les publicitaires.
Et on pourrait pas imaginer, par exemple, au lieu de passer 4 pubs le matin, n'en passer qu'une qui paierait pour les 4.
Alors là, de nouveau, nous sommes dans le rapport de force dans notre économie de marché. Il y a une offre, il y a une demande. Je pense que notre régie, depuis régulièrement, revoit la hausse de ces tarifs publicitaires, mais dans la mesure où il y a encore une offre réaliste économique. Parce qu'à un moment donné, si on augmente le tarif publicitaire trop fort, de manière soudaine et trop forte, bon, alors il n'y aura plus de publicité. Alors les auditeurs seront peut-être contents, mais ça ne va pas boucler le budget de la RTBF.
Alors, venons-en à ces fameuses web radios, et on va commencer simplement par expliquer ce que c'est. C'est quoi, Francis Goffin, une web radio?
Alors, une explication toute simple, c'est de dire qu'une web radio, c'est une radio qui n'est disponible que sur Internet. Voilà, ça c'est la définition la plus simple. Donc, impossible de l'écouter en FM, en AM, en DAB, ou autrement, en ondes courtes, je ne sais pas.
Elle n'est diffusée que sur Internet.
Voilà, donc il faut aller sur un site Internet, ou via les nouveaux récepteurs, qui sont des récepteurs de web radio, de radio Internet exclusifs, donc soit via l'ordinateur, via ces nouveaux récepteurs, on peut aller écouter ces radios uniquement sur le réseau mondial du web.
Ces récepteurs qui existent et qui coûtent cher quand même relativement, c'est de l'ordre de 300-400 euros.
Oui, alors là, vous parlez, je pense, d'un équipement qu'on a fait à titre professionnel, ce sont des radios professionnelles qui sont relativement élevées. Nous avons découvert hier qu'un groupe anglais vient de mettre au point une petite radio web qui permet d'écouter les 10 000 radios web du monde pour moins de $15.
Mais en l'occurrence, pour le grand public, du moins dans l'état de l'équipement des gens pour le moment, ces web radios, elles sont accessibles via l'ordinateur, sur Internet.
Via le site de la première, via le site de la RTBF ou des autres chaînes de la
RTBF. Voilà, donc on va sur le site de la RTBF,
par exemple.
On va sur le site des différentes radios. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Eh bien, donc on clique sur un icône type web radio, et là, on découvre ce qu'on appelle un player, c'est-à-dire un petit logiciel qui permet d'écouter la radio en direct, ce qu'on dit en streaming, c'est-à-dire un flux d'informations binaires qui vient par le réseau web jusque sur votre ordinateur et qui reconstitue le son. Donc c'est un petit récepteur
en fait,
intégré sur votre écran et qui diffuse tout d'abord nos chaînes premium, ce qu'on appelle nos chaînes premium, c'est-à-dire vous pouvez écouter sur Internet également en direct la première. Il y a une étude récente en France qui démontre que 29% des internautes écoutent la radio tout en travaillant sur leur ordinateur. J'étais surpris. 29%, donc quasi un tiers des personnes qui sont des internautes écoutent la radio sur Internet. Donc c'est en progression très très forte.
Donc on trouve les chaînes habituelles de la RTBF,
voilà.
Mais en plus maintenant on peut trouver d'autres chaînes qui ont un profil particulier.
Donc on retrouve 9 chaînes que nous avons créées exclusivement pour être disponibles sur Internet en complémentarité à notre offre de base qui est diffusée essentiellement d'abord en FM mais aussi dans un petit peu en AM, en DAB. Alors pourquoi nous avons fait ces radios sur Internet et pas en FM ? Simplement parce que sur la FM, il n'y a plus de place. Le problème des fréquences, la disponibilité des fréquences est un casse-tête sur lequel se heurtent les gouvernements successifs de notre communauté, de notre pays. C'est immensément complexe, c'est pas le sujet du jour. Mais il n'y a plus de place. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des questions d'auditeurs sur la capacité à écouter la FM, la première en FM qui n'est pas parfaite. Donc, notre priorité, ce serait d'abord de développer nos chaînes en FM de manière optimale. Donc, il n'y a plus de place. Et par ailleurs, on observe un autre phénomène, plus de place en FM, par contre, une place gigantesque, infinie sur Internet. Et donc, depuis quelques années maintenant, des nouveaux pionniers, qui sont un petit peu quelque part des pionniers de la radio libre sur Internet, se sont dit, et c'est un fabuleux système de diffusion mondiale, faisons de la radio là-dessus. Alors effectivement, il y a aujourd'hui des sites de référencement de radio sur Internet qui comprennent les web radios exclusifs et les radios comme la première en streaming diffusées également sur Internet. Il y a 10 000 radios aujourd'hui qui sont référencées dans le monde. Alors c'est beaucoup, c'est un univers nouveau et dans lequel nous avons décidé que la RTBF devait être présente également. Et donc nous avons pris pied dans ce nouvel espace en complément avec nos chaînes premium depuis maintenant le début de l'année avec une offre spécifique de 9 web radios dont une qui est dédicacée produite par la première. C'est une chaîne de chansons de titres en français.
Et alors elle se présente comment? On y retrouve de la musique, des animateurs ou bien c'est un profil spécifique?
Alors c'est essentiellement actuellement en tous les cas c'est essentiellement musical. Ce sont des flux thématiques musicaux. On retrouve des déclinaisons, des prolongements d'émissions existantes en radio, ou bien une alternative à l'offre de base. Je vais parler par exemple de nos collègues, de vos collègues de Pure FM. Pure FM est une radio qui ne passe pas de rap, de funky, et de toutes ces musiques urbaines, comme on dit aujourd'hui. Mais par contre, c'est une radio qui s'adresse aux jeunes. Et dans le public jeune, il y a une partie du public qui aime cette musique-là. Et bien, Pure FM a lancé une chaîne alternative à sa programmation FM qui s'adresse à ce type de public-là.
Francis Goffin, quel est le but de la manœuvre? Est-ce que c'est d'attirer de nouveaux auditeurs à la RTBF et puis à ces chaînes radio ou de faire comme les autres finalement?
Non, le but est double. Le premier, c'est notre mission, c'est d'être le plus présent possible sur toutes les possibilités d'entrer en contact avec les auditeurs. Et donc, nous devons être présents sur la toile, sur Internet, pour que les gens qui naviguent, qui surfent sur Internet, aient la possibilité d'entrer à un moment donné en contact avec les radios de la RTBF. Ça, c'est un premier objectif, c'est-à-dire être présent sur toutes les plateformes possibles. Nous avons aujourd'hui 13 plateformes de diffusion, dont la plus connue est la FM, mais je ne vais pas toutes les énumérer. Il y a le DAB, il y a l'AM, il y a le téléphone, simplement. Il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut appeler, on écoute la première.
C'est pas le système le moins cher, mais enfin ça existe.
Ça existe, parfois ça peut être utile. Il y a Internet, il y a les ondes courtes, il y a les plateformes nouvelles de télévision numérique, de la RTBF, la TNT, il y a le DVB-H, il y a Belgacom TV, il y a Télénet, j'en passe. Donc j'ai répertorié au total 13 plateformes de diffusion. Et Internet, c'est une qui grandit de plus en plus. Et donc il y a de plus en plus d'importance. Ça, c'est un premier objectif, c'est d'être en contact avec tous les publics possibles sur tous les systèmes de diffusion. L'autre, c'est d'exister dans un univers qui est en train de grandir de manière lente, et je dirais presque insidieuse, parce qu'on s'en rend pas compte qu'il grandit, mais en fait, il y a une évolution lente et certaine, on sait pas vers quoi ça va nous mener, d'une évolution de la consommation des médias. On passe de l'univers où c'était le one to many, c'est-à-dire un broadcaster, en l'occurrence la RTBF ou la première par exemple, qui fait à un moment donné un programme qui s'adresse à beaucoup de monde de manière instantanée. Et on passe presque sur un modèle one to one où quelqu'un peut faire un programme sur Internet pour un autre ou même pour lui-même. Et donc, dans cette évolution qui va vers un morcellement de l'offre, évidemment, une atomisation du marché, comme diraient les économistes, eh bien, il est nécessaire que la RTBF existe également. Et donc, nous allons multiplier notre offre. Évidemment, nous n'avons pas les moyens de faire des radios identiques à nos chaînes premium. Donc, aujourd'hui, ce sont des chaînes principalement musicales. Ça coûte pas très cher d'en faire. C'est du travail. Et ça permet aussi à certains de nos talents de s'exprimer de manière pleine et entière sur une chaîne complète. Mais voilà, donc c'est deux objectifs.
Ah, Francis Goffin, on a beaucoup de réactions au 02 737 26 06 d'auditeurs. Il y a une qui est bien, mais si elle résume bien les autres, c'est on parle de nouvelles technologies, mais ce serait déjà bien d'améliorer le confort d'écoute. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a beaucoup de réactions de gens qui disent, par exemple, un auditeur qui dit « Je suis un fidèle auditeur la première, anciennement Radio 1. J'écoute quasi toute la journée dans ma voiture parce que je me déplace énormément. Je n'arrive pas à vous avoir dans ma voiture en FM. Donc, j'écoute en onde moyenne. Mais, problème depuis septembre, à un certain moment, on entend Vivacité sur ces ondes moyennes plutôt que la première. Je trouve ça dommage. Il y a aussi un autre auditeur qui nous parle de problèmes de captation du côté de La Louvière et Mons aussi. Alors, réponse.
Alors, c'est effectivement toutes les remarques de nos auditeurs, ils ont totalement raison. C'est un peu un de nos paradoxes, c'est que nous sommes à la RTBF assez bien en pointe en matière de radio sur Internet, avec la plateforme que nous venons d'ouvrir au début de l'année, où il y a au total nos chaînes premium plus 9 web, avec toutes nos chaînes et nos décrochages, ça fait 20 chaînes en ligne, c'est énorme, c'est la première offre belge à ma connaissance en tous les cas. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, une chaîne de référence comme la première est mal diffusée en FM dans certains endroits du pays. C'est malheureux, mais c'est une réalité, et on n'a pas de solution. Partiellement, je vais y revenir. Mais on n'en a pas vraiment de situation, de solution globale. Cet auditeur disait, j'écoute la première, anciennement Radio 1. Et c'est tout le malheur, je dirais, de la première, c'est que c'est la chaîne historique. Et l'histoire de cette première chaîne est un développement en AM. Et dans les années 80, en onde moyenne, oui, en onde moyenne, parce que c'était le médium technique de développement de la radio à l'origine, historique. Et dans les années 80, nos prédécesseurs à la direction de la RTBF, à mon avis, ont un petit peu sous-estimé l'AFM, le développement de l'AFM. Et la RTBF, qui avait reçu au niveau international toute une série de fréquences FM, ne les a pas toutes occupées, peut-être pour des problèmes économiques à l'époque, et a laissé ces fréquences libres. Et donc ces fréquences ont été occupées progressivement par toutes les radios privées, qui ont finalement eu même des autorisations, des licences, etc. Et il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Donc il y a eu une sous-estimation de l'AFM. L'AFM qui a été développée sur des programmes nouveaux, je parle à Radio 21 par exemple, qui a eu un développement très puissant, exclusivement FM, et des chaînes plus historiques, comme Radio 1 et Radio 2 aussi,
Du côté
flamand, sont des chaînes qui avaient par leur histoire un développement plutôt AM. Et donc, on a un petit peu sous-estimé la FM. Et on paye ça aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Francis Goffin? Moi, je suis auditeur, mettons, à Waterloo, et tout à coup, dans ma cuisine, j'entends plus la première. Et ça devient difficile. Qu'est-ce que je dois faire concrètement, à part changer de chaîne?
Surtout pas changer de chaîne.
Non, alors, il y a des alternatives. Nous sommes aujourd'hui, avec la première notamment...
Est-ce qu'on peut vous écrire, vous envoyer un mail en disant, dites-moi, je parviens pas. Oui. Et ça a du sens, je veux dire. Vous allez faire suivre ici
Oui, alors, si c'est pour me demander, je veux pouvoir écouter la première FM de manière meilleure, je n'ai pas la réponse. Voilà. Il n'y a pas de solution. Et je dis clairement, l'AFM est... D'abord, il faut savoir que l'AFM est à la fin de ces années d'or. C'est fini. Je l'ai déclaré dans un grand quotidien récemment. C'était sur l'avenir numérique. L'avenir est au numérique. L'avenir est peut-être sur Internet ou bien dans d'autres médiums techniques comme le DAB. Et c'est ça, c'est une alternative. On peut écouter la première à Waterloo de manière beaucoup plus stable qu'en FM en DAB. Le DAB, c'est quoi? C'est Digital Audio Broadcasting. Ouais. C'est un autre système numérique de diffusion. Il n'est pas encore très répandu, mais c'est une alternative.
J'ai parlé de Waterloo parce qu'Alain Jarlache habite Waterloo, c'est pour ça. Alain Jarlache, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dans une minute, c'est fini cette émission.
C'est triste.
Et on n'a pas parlé de RTBF Mobile Info. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être de demander à Francis Goffin de revenir le 15 février. Vous n'êtes pas là, Francis Goffin.
Et je précise quand même qu'on entend très bien la première dans mon
Je ne suis pas là, c'est pour la bonne cause, parce que je suis dans une radio.
Je vous pose la question, je le sais. Bon, ben vous revenez pour parler d'RTBF Mobile Info, parce qu'en une minute, c'est pas possible. Ça,
bien volontiers, je pense que ça passionne aussi les auditeurs.
Très bien, je rappelle que vous pourrez écouter cette émission par podcast ou par radio à la demande. Il faudra
et elle sera aussi disponible via le blog des médias.
Et le blog d'Alain Jarlache, vous allez sur RTBF.
Vous cliquez, vous réécoutez toute l'émission.
Toute l'émission. Et vous pouvez même dialoguer avec Alain Jarlache qui vous répondra. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On se retrouve donc vendredi 15 février. Si vous avez des suggestions à faire, ben vous pouvez les faire à Alain Jarlache. Hop, comme ça on est tranquille. Vous allez sur le blog d'Alain Jarlache et puis voilà. Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Goffin?
Je viens de me rendre compte dans mon agenda que j'étais là le 15 février.
Voilà. Eh bien, nous terminons sur une bonne nouvelle. Francis Goffin est là le 15 février et il sera là donc dans cette émission pour parler de la RTBF Mobile Info, ce nouveau service génial, formidable, merveilleux, etc. Voilà, dans quelques instants, sur la première, Nicolas Blanc-Mont et le classique des classiques. Bonne journée, mesdames et messieurs. Merci Alain Jarlache.
À très bientôt.
À mercredi.